Kouai.
Bonjour. Robert Blondin ici, en compagnie d'Alexis Wawanonowat.
Oh, j'en ferai
pas le prononcer
non,
comme
non,
il faut.
Non, c'est bien.
Voilà.
Comme il faut.
Alors, il y a un blanc, il y a un autochtone. C'est l'émission qui veut le plus possible parler d'eux et donner surtout la parole aux autochtones.
Exactement.
C'est notre deuxième émission, Alexis.
Déjà.
Content de te retrouver.
Ben oui, moi aussi.
Hey, il s'est passé des choses importantes cette semaine parce que le chef Gros-Louis, qui était très important, peut être controversé, on en reparlera, mais finalement, il est décédé, et c'était ses funérailles. Cette semaine, tu l'as connu, tu l'as rencontré,
j'imagine? Je l'ai rencontré à une occasion, c'était à l'occasion de la mort du chef Gilles Obomsawin de ma communauté. À l'époque, j'étais député. Et je me cherchais un livre pour retourner à Québec. Donc, Max m'a généreusement embarqué. J'ai fait un tour dans son Grand Cherokee pour finalement me retrouver à Québec à Sainte-Foy avec lui à manger des steaks dans un restaurant.
Il a été très utile. Un grand diplomate pour les choses autochtones, les enjeux autochtones. Il n'était pas un peu folklorique, un petit peu trop pour les autochtones?
Ah, peut-être pour certains, c'est sûr qu'il y avait une image, il aimait bien entretenir cette image-là, mais... C'était aussi un businessman. Faut voir tous les aspects de Max Gros-Louis. Max Gros-Louis, non seulement il était très important en politique, mais avait des entreprises, avait des ranchs, avait des propriétés, vendait de l'artisanat autochtone.
Il a vendu des raquettes à je sais pas combien de milliers de Français qui venaient en voyage l'été.
C'est ça. Donc, c'est sûr que le côté folklorique devait répondre peut-être à des besoins plus mercantiles.
Ça demeure un grand homme,
un grand homme.
Donc, ses funérailles cette semaine, à l'issue desquelles notre patron, Louis Garon, l'a interrogé parce qu'on n'était pas disponible.
Ouais.
Et interrogé.
Monsieur Picard.
Monsieur, il y avait un prénom.
Hein? Denis Picard, ouais. Un des bons amis à Max Gros-Louis.
Et on va écouter la rencontre.
Dans l'entrevue.
J'ai connu Max Gros-Louis, j'étais très jeune parce qu'il demeurait à deux maisons de chez mes parents. Et c'est à ce moment-là qu'on se saluait, parce que nous, on était jeunes, exemple. En hiver, on jouait au hockey dans le chemin, comme tous les petits Québécois l'ont fait. Et lui passait, puis là, il nous parlait, il nous agaçait, etc. Et Max, c'est M. Gros-Louis et moi, on a 11 ans de différence. Donc, on se voyait, puis là, on a commencé à échanger, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je dirais, ce qui caractérise le plus au moment où j'étais plus jeune, là, c'était d'abord sa prestance. C'est un grand bonhomme, une stature assez costaude, là, et pour un homme de cette grandeur qui s'occupe des petits jeunes comme nous autres, là, c'était impressionnant. Et à chaque fois qu'on se rencontrait, il était toujours là pour nous saluer. Puis pourtant, lui, il était très jeune, il aurait pu se fouter de nous complètement. Mais non, il prenait le temps de parler avec nous autres. Puis il nous abordait, puis on l'écoutait comme on pouvait écouter un sermon à l'église, je pense. Là. Il était toujours intéressant. Ce qui nous impressionnait, c'est de le voir prendre son temps, de nous parler des Premières Nations et de faire ça tout simplement, mais il n'était pas encore politiquement impliqué, sauf qu'il était intéressé à la cause des Premières Nations. Avant de devenir grand chef, il s'est d'abord impliqué dans la communauté. Il a mis sur pied un comité qui s'appelait le développement communautaire, et c'était des gens de son âge et des jeunes comme moi et mon épouse actuelle. On s'est impliqués dans ce comité-là, et l'objectif, c'était de faire en sorte que les jeunes aient des loisirs, des activités culturelles, mais là, on devait tout inventer. Et c'est comme ça que Max était le leader à ce niveau-là. Il disait, on a une réunion à telle heure à la salle et on va discuter de ce qu'on peut faire pour une patinoire en hiver ou comment on peut s'impliquer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à un moment donné, il s'est présenté, il y a eu une élection au niveau de la chefferie. Il s'est présenté, puis il est rentré haut la main. Et à ce moment-là, là, il a impliqué de plus en plus le comité de développement communautaire. Et c'est comme ça qu'on le voyait, là, vraiment intéressé, nous intéresser pour qu'on puisse faire de quoi pour la population Wendat de la réserve. Et ces discussions s'étendaient à l'extérieur de temps en temps parce qu'on parlait des Inuits à tel endroit, des Abénaki à tel endroit, qui ont des problèmes, puis tout ça, puis il faut s'aider entre nous. Et c'est comme ça que c'est devenu, comme à un moment donné, assez politisé lui-même là pour se présenter comme grand chef. On pouvait toujours faire quelque chose. Ça pouvait être long, on va prendre notre temps, on va y aller de façon intelligente, étape par étape, mais il y a des situations qui sont difficiles, il y a des causes qui sont injustes, il se passe des injustices. Il y a des gens qui, à un moment donné, là, sur certaines réserves, ont bloqué une route. On disait là, faut les encourager. Et ça nous est arrivé, nous autres aussi, de bloquer une route pour dire, nous autres, on veut appuyer les gens, par exemple, de Restigouche, qui avaient des problèmes pour la pêche à ce moment-là. Ou une autre cause ailleurs, sur une autre réserve. Là, on posait des gestes. On n'a pas toujours bloqué des routes, là, c'est très rare, mais on faisait des gestes. Il fallait que, on voulait que les médias en parlent à ce moment-là. Et les médias à ce moment-là, c'était les journaux connus à ce moment-là. Évidemment, il y a eu des situations où il fallait que Max intervienne. Et je dois vous dire que c'était un homme qui respectait beaucoup les autres, qui était à l'écoute. Le respect s'appliquait là, autant aux enfants qu'aux adultes. Et c'est ce qui a fait, moi je pense que c'est ce qui a fait, en plus de sa stature et sa façon de se présenter, c'est un homme, comme on dit, si je ne me trompe pas, charismatique. Là. En sa présence, là, il se passait quelque chose dans la relation. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, quand on a eu des problèmes, un des plus gros problèmes, là, ça a été l'histoire de la baie James. Alors, M. Grosloué a rencontré à ce moment-là, évidemment, après avoir fondé, il avait fondé avec d'autres personnes l'Association des Indiens du Québec. Et suite aux rencontres d'association avec les chefs de la province, l'association a décidé de contester le projet de la baie James. Elle avait obtenu une injonction de la part du juge Malouf, ce qui avait obligé le gouvernement de M. Bourassa, à ce moment-là, de s'asseoir avec les Premières Nations, principalement avec les Cris, et ce qui a résulté en la convention de la baie James. Et à ce moment-là, Max intervenait beaucoup, et sa façon d'intervenir, c'était toujours posé, respectueux, et c'était une négociation de nation à nation. Exemple, rencontrer M. Lévesque avec les Premières Nations, ça s'est fait à quelques reprises, j'étais présent, et M. Lévesque avait un très grand respect pour les Premières Nations, et principalement pour notre grand chef. Et moi, j'ai eu la chance de participer avec notre grand chef à des rencontres avec M. Lévesque. Et M. Lévesque était, pour moi, là, c'était un homme à l'écoute. C'était du même type que Max, là. Respectueux des gens, à l'écoute et prêt à aider, à participer, à améliorer la situation des Premières Nations. Max, très jeune, était déjà un chasseur, un pêcheur, un trappeur et un guide en forêt. Il pouvait guider des Américains qui venaient en forêt au Québec, là. Il pouvait guider partout, et il était apprécié partout. Et il était renommé comme étant un bon trappeur, bon chasseur et pêcheur. Tellement respectueux que quand il attrapait une bête ou tuait un animal, il prenait le temps de faire des rythmes, de poser un rythme amérindien pour remercier l'esprit de l'animal tué. Et il a fait de grandes choses. Comment je pourrais dire? C'était une personne qui, d'après moi, il n'a pas pris de vacances. Les vacances qu'il a prises, c'était pour aller une semaine à la chasse, une semaine à la pêche et faire de la trappe de temps en temps. Mais la politique était toujours entre ses deux oreilles. Il y avait toujours des choses à régler, des rencontres à avoir ici et là avec les gouvernements, avec des organisations, des conférences aux universités, des conférences dans des colloques. Et il était continuellement impliqué. Et moi, j'ai vécu ça pas à 100%, mais j'en ai vécu beaucoup de ce type d'intervention avec lui. On a fait des commissions parlementaires qui ont été extraordinaires, où on pouvait parler et on se sentait respecté. Évidemment, il est arrivé des accrochages, par exemple, de se faire dire par un sous-ministre qu'il reconnaissait les Premières Nations quand ils sont dans leur réserve. Alors, le message, dès que vous sortez de votre réserve, vous n'êtes plus un membre d'une Première Nation. Alors, ça, là, on était plusieurs nations, plusieurs chefs à la rencontre, et les gens étaient restés surpris de voir la réaction de ce ministre. Et je me souviens que Max et moi, on était restés calmes, et le lendemain, on avait repris la situation en main. Et pour dire que c'était une insulte. Mais on l'a su le dire de façon polie et on a été bien entendu par René Lévesque parce qu'il a repris lui-même pour nous en parler, pour clarifier les choses. Alors c'est ça, Max, c'était l'homme qui était jour et nuit dans le module politique pour les Premières Nations, pour les Québécois. C'est un gars qui voulait qu'il y ait des négociations pour y avoir un gagnant-gagnant et non un gagnant et un perdant. Une de ses réflexions qu'il reprenait souvent, c'est qu'il rêvait d'avoir un musée à son nom. Et ça, là, il en a parlé souvent. J'ai beaucoup d'artefacts, j'ai beaucoup de... Max, c'était une mémoire ambulante, mais c'était une mémoire livresque aussi. Sa maison est pleine de livres qui relativement aux Premières Nations. Et c'est plein de tableaux. C'est le monsieur qui s'est impliqué, non pas politiquement, la politique. Il y a l'âme politique, mais aussi il y avait l'âme de la culture. Il encourageait les artisans, les peintres, les artistes, chanteurs, et ces gens-là allaient le voir, puis il leur donnait du temps, et il les encourageait à poursuivre, puis à s'intéresser aux Premières Nations. Alors, si vous allez à l'hôtel musée, tout ce qui est exposé sur les murs à l'hôtel, ou en majorité, c'est d'appartenance Max Gaulois. Et ça, il y en a beaucoup à la maison, mais dans les derniers moments de sa vie, l'importance d'avoir un musée à son nom. Lui-même voulait le monter, mais le conseil qui siégeait à ce moment-là a refusé pour toutes sortes de raisons que je ne connais pas, là, sauf une. Et c'est que c'était pas le temps, ça va nuire à l'hôtel musée, etc. Mais ses enfants lui ont promis dernièrement de s'en occuper. Et je sais qu'il y a M. Labeaume, que je parlais à M. Labeaume avant hier, et il me disait « on va s'en occuper ». Alors, ce qui va survivre de Max, c'est ce qui va survivre dans toutes les Premières Nations, au Québec, dans les provinces, à travers le Canada et à travers le monde. Je dis à travers le monde parce qu'en Europe, Max était très apprécié, même les pays africains l'appréciait beaucoup. En Amérique du Sud, c'était la même chose. Il a même été décoré, tout ça. Mais ce qui va rester, moi, en tout cas pour moi, c'est sa mémoire. Ce monsieur-là était vraiment une bibliothèque ambulante, une mémoire ambulante. Et son esprit va rester. C'est les souvenirs, les toutes les qualités qu'il pouvait reconnaître pour les Premières Nations, des gens qui ont fait la transmission orale, qu'on a réussi à survivre avec la transmission orale, avec le peu d'intérêt qu'on a eu dans le passé. Et c'était un ambassadeur, et je pense que l'esprit de l'ambassadeur va circuler encore longtemps.
C'était Christian Lavaux, artiste Huron-Wendat, qui nous chantait un chant traditionnel Wendat.
C'est très beau.
Oui.
C'est vraiment très beau, mais il y a des connotations modernes là-dedans. C'est pas
uniquement américain. Oui, c'est sûr que ça a été adapté à une sauce plus moderne, oui.
C'est vraiment magnifique. Et il y a eu une nouvelle récemment qui me semble à moi très, très, très importante, Alexis. C'est cette décision, cette annonce de la table politique qui est permanente.
Oui.
Hein, pour apaiser les tensions. Rappelons que c'est à la suite de la mort de Joyce Chacoan, à Joliette, là, finalement, qu'on a décidé de faire ça avec le nouveau ministre, Yann Lafrenière. Une table permanente de concertation, de recherche, etc. Bon, pour mieux s'entendre et mieux trouver les bonnes solutions. C'est favorable pour toi du point de vue des Autochtones, là?
Ben, je pense que c'est quand même une initiative qui est porteuse du fait que c'était quelque chose qu'on demandait de la part des Autochtones depuis un bout. C'était aussi dans les plans du Parti québécois il y a peut-être une décennie ou deux. C'est revenu à l'époque aussi dans nos plans, à l'époque où j'étais là. Je suis très content de voir enfin ce forum-là pouvoir exister. Est-ce qu'on pourrait le rendre plus officiel en le transformant éventuellement en commission parlementaire permanente sur les peuples autochtones? En Nouvelle-Zélande, c'est ça qu'ils font avec les Maoris. Ils ont une commission parlementaire qui est là, qui a des membres du Parlement, qui a des membres Maoris. Puis, de cette façon-là, les projets de loi qui touchent le mode de vie des Maoris sont automatiquement examinés dans cette commission parlementaire-là. Donc, ça pourrait peut-être évoluer. J'espère que ça va avoir des effets concrets sur la vie du monde, cette table-là.
Pourquoi on a de l'espoir là-dedans? Qu'est-ce qu'il y avait avant qui fait qu'on n'en avait pas d'espoir et que c'était de l'affrontement constant, les blocages de route et tout ce qu'on voudra?
Blocage de route puis tout ça, c'était que c'est les derniers recours. Quand on se fait pas écouter, quand on essaye tous les moyens, quand on essaye les tribunaux, quand on essaye la voie politique, quand on essaye la voie médiatique, puis on se fait pas entendre, c'est normal qu'à un moment donné, on va se fâcher, puis on va décider de faire que, comme les Algonquins ont fait dans le parc La Vérendrye, décider de bloquer le chemin pour empêcher les gens d'avoir accès au territoire, les chasseurs sportifs. Puis c'est la même chose qui se reproduit encore et encore et encore. Donc, si on n'a aucune alternative, on en vient à des solutions qui peuvent paraître extrêmes, mais si on les replace dans un contexte plus historique, on peut avoir quand même une certaine compréhension par rapport à ça. Dernièrement aussi, moi, qu'est-ce que je trouve important dans l'actualité des derniers jours, c'est les Atikamekw qui ont déposé le principe de Joyce.
C'est quoi ça?
Le principe de Joyce, ça s'inspire un peu du principe de Jordan. Le principe de Jordan, c'est un enfant dans les prairies qui était où il y avait une guerre de juridiction entre le fédéral puis le provincial pour permettre à cet enfant-là d'aller mourir à la maison. Il était en fin de vie, cet enfant-là. Au bout de la ligne, cet enfant-là est mort à l'hôpital à cause d'une chicane fédérale-provinciale. Il cite le principe de Joyce, c'est suite à la mort de Joyce Echaquan. Les Atikamekw ont décidé, nous, on veut du respect dans les soins de santé qu'on va avoir dorénavant. Et une des actions demandées suite au principe de Joyce, c'est d'avoir un ombudsman pour les soins de santé pour les Autochtones. Pour qu'on puisse porter plainte, avoir quelqu'un qui va pouvoir nous écouter si y a des situations comme qui est arrivée à Joyce, arrive encore. Parce qu'on le sait, là, c'était pas quelque chose d'isolé. Cette situation-là, ça faisait longtemps qu'on entendait parler de morts suspectes, d'actions suspectes dans les hôpitaux. Et il n'y a rien qui se passait. Il a fallu que cette femme-là ait le courage de se filmer pendant sa fin de vie.
Ah ouais. Denis Picard, il y a quelques minutes dans l'émission, rappelait les moments où un sous-ministre avait dit « Tant qu'ils sont dans les réserves, on tient compte, ce sont des autochtones, ouais, etc. » Et quand hors des réserves, c'est pas la même chose. La table de concertation, de recherche qu'on vient d'annoncer, qui va être permanente, c'est pas uniquement pour les autochtones en réserve.
C'est sûr que le système politique qu'on a en ce moment, les chefs représentent tous leurs membres, qu'ils soient hors ou sur réserve. Mais si on regarde la table politique des Premières Nations au Québec, la PNQL, cette table-là inclut non seulement, oui, les chefs, mais aussi une voix non-votante, mais quand même qui est là pour le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et aussi pour les femmes autochtones du Québec. Donc, sur le fonctionnement de cette table-là en particulier, il devrait y avoir sûrement la possibilité pour des représentants des milieux urbains de pouvoir faire valoir leur point.
Si toi, tu présidais ça dans cette table-là, t'essaierais d'en arriver où avec ça?
Ben là, moi, je suis un grand idéaliste.
Disons que c'est toi le grand boss.
Ouais, mais moi, je suis un grand idéaliste. Là.
Ben, mais pourquoi pas?
Ouais.
C'est pas un mal, l'idéalisme?
Non, mais souvent, on me dit que je suis pas très, très réaliste dans ma vision des choses, parce que moi, je pense qu'à terme, faut en arriver à une décolonisation.
Il n'y a aucune réalité qui n'arrive, qui n'a d'abord été rêvée. On part avec ça, là?
Oui, je le sais.
Bon.
Mais à terme, ça pourrait être un moyen de parler de décolonisation. Comment on enligne la décolonisation? Comment on s'inscrit là-dedans? Comment on peut faire en sorte que le projet de société du Québec qui soit dans un avenir vers l'indépendance ou qu'on reste dans le cadre constitutionnel actuel, comment on pourrait faire pour que ce projet de société-là inclue les Premières Nations et que ce soit pas juste une question de domination de pouvoir sur le territoire? Comment on fait pour partager ce pouvoir-là?
Oui, bon, ça c'est beau à faire, mais c'est quoi les obstacles qu'on risque de rencontrer pour rencontrer cet idéal-là?
Les intérêts de l'État colonial. si on reste tout le temps dans cette perspective-là où l'État colonial, c'est quoi son intérêt dans la chose? Si on reste dans une pensée extractiviste où on veut aller chercher les ressources sur le territoire, aller pouvoir les retirer, on va tout le temps arriver à cette confrontation-là. En ce moment, le gouvernement du Québec dit « Oh, je veux pas mettre en place la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones parce que ça pourrait peut-être donner un droit de veto aux Autochtones sur le développement économique. » Donc, on voit qu'on a peur de partager le pouvoir. Puis, si d'autres ententes fonctionnent comme celle des CRI, ben c'est à cause qu'on a partagé le pouvoir. Là, on a partagé le pouvoir sur le territoire, on a redistribué une partie des richesses.
C'est ça que tu appelles la décolonisation, finalement.
Ben, c'est une partie de la décolonisation, parce ouais. que la décolonisation, c'est aussi dans notre justice. C'est aussi dans nos systèmes de santé. C'est vaste, là, quand on parle du chantier de la décolonisation. Je préfère ce terme-là à réconciliation.
Ah, pourquoi?
Parce que réconciliation, c'est la finalité de la chose.
Parce que réconciliation, là, c'est plus facile pour les Blancs qu'on nous à accepter que de dire qu'on est des coloniaux, puis qu'on dit hey, regarde les Québécois que je suis. Je suis un colonisé qui en a colonisé d'autres. C'est
ben
ça que
oui,
tu me dis?
C'est ça qui est arrivé. Eh oui, puis il faut être capable de parler des vraies choses, parce que la réconciliation, c'est un terme, c'est une rhétorique utilisée justement par l'État colonisateur pour faire comme si la colonisation, c'était quelque chose du passé. On a eu un passé colonial. Quand c'est pas un passé colonial, on est dans une période coloniale. Donc, il faut en premier faire la décolonisation. À ce ouais. moment-là, on pourra avoir intérêt à se réconcilier.
Bon, ben écoutez, on est à la table, on y reste une minute. C'est le début de la table de concertation permanente. Mm-hmm. Je vous présente le président, Alexis Wawanonoat, et qui va vous dire son allocution d'ouverture. Alors, c'est à toi. Explique-leur qu'est-ce qu'on va faire dans cette table ronde. Vas-y.
Bienvenue tout le monde. Notre première réunion va servir à établir la volonté de chaque Première Nation face à la décolonisation de l'État québécois.
Ah, oh, merci. On applaudit, tout le monde, on est content. C'est parfait.
Écoutez, Kwe, bonjour.
Kwe, Eric.
Bonjour, Kwe, ça va?
Ça va bien, toi?
Bien sûr, bien sûr.
Hey, aujourd'hui, tu nous parles
ben, c'est-tu Eric Pouliot-Tisdale?
Ben oui,
lui-même.
Eric Pouliot-Tisdale.
On est chanceux.
En direct. Aujourd'hui, tu nous parles du droit de vote des Premières Nations.
Oui, exactement. Depuis les premières mentions à la Chambre des communes par le Sir John A. Macdonald qui suggérait d'entendre les débats à cet effet. Et puis, ça a pas mal débuté là. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que dans les premières minuteries, disons, des chambres des communes au départ, après avoir maintenu, disons, des bonnes relations de nation à nation à l'époque où les Autochtones participaient aux milices avec tant le Haut et le Bas-Canada dans certaines guerres qu'il y a eu avec les États-Unis, dont en 1763 puis la guerre de 1812, quand les Américains voulaient prendre le pouvoir au Canada.
À l'époque où on avait une utilité pour les empires coloniaux.
Exactement, voilà. Donc, la couronne donnait des cadeaux longtemps à toutes ces familles-là qui avaient participé aux milices et tout ça. Mais ça semblait, avec les budgets de l'État, un fardeau. Donc, il y a eu la création des réserves, puis c'est pas mal là que les donations aux collaborateurs militaires ont arrêté lors de la création des réserves et tout ça. Fait que ça a pas mal tué les relations de nation à nation dès lors. Fait qu'en 1885, la Chambre des communes commençait à débattre à cet effet-là. Entre autres, on voyait un certain Isaac Burp, député de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, qui déclarait que l'Indien n'en connaissait pas plus qu'un enfant de 2 ans en matière de politique. Un autre député de Charlotte, Gilmore, disait que la proposition d'accorder le droit de vote constituait le comble de la fourberie politique de la part de Sir John A. Macdonald. Donc, c'était vraiment très, très, très mal perçu au départ.
Mm-hmm.
Le 4 juin 1985, franchiser les Indiens, c'est-à-dire les rendre citoyens et les retirer du statut autochtone.
C'était leur émancipation.
Et leur permettre un jour d'aller au ciel en bon catholique, non?
Exactement. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que, encore dans les mêmes débats de 1885, on voyait certains députés qui suggéraient que les Indiens, étant donné qu'ils avaient commencé à bien développer l'agriculture depuis la création des réserves et tout ça, ça prouvait assurément que les Indiens de l'Ontario, ça c'était à la Chambre en Ontario, étaient qualifiés par l'industrie pour exercer le suffrage, donc le droit de vote. Puis dans les autres provinces, les Indiens devaient être affranchis si leur qualification n'était pas moins qualifiée que celle de l'Ontario avec l'agriculture. Donc, un exemple de débat. Qu'est-ce qui s'est produit? La plus grande surprise, quand les vétérans étaient partis à la Première Guerre mondiale, dont beaucoup de Kanawakis et des Six Nations, ça a été pas mal, beaucoup des grands participants dans l'Est du Canada, disons. Alors que le monde était au front, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que O'Connor, le ministre de la Justice, en décembre 1917, expliquait dans son arrêté ministériel relativement aux Indiens qui arrivent du front et qui ont été licenciés et qui actuellement vivent dans les réserves des sauvages au Canada, ils auront le droit de vote s'ils sont naturalisés sujets canadiens. Un arrêté ministériel vient d'être promulgué dans ce sens, accordant à chaque réserve de sauvages dans votre district un bureau de votation militaire. Alors, qu'est-ce qui suggérait là? Et ce qui s'est produit aussi, c'est que aussitôt que les gens revenaient de la Première Guerre mondiale, les vétérans autochtones, ils étaient émancipés, ils n'avaient plus le statut autochtone, ainsi que leurs femmes, et avaient le droit de voter.
De façon automatique, quelqu'un comme Gabriel Commanda, le fondateur de Val-d'Or, en revenant de la Première Guerre mondiale, lui, il n'était plus un Algonquin.
Exactement. C'est exactement ça. Sauf que ça a été contesté.
Parce qu'on voulait garder notre identité, pas dans beaucoup de cas.
Exactement, oui, c'est ça. Puis on voit que, bon, jusqu'en 1921, toujours les mêmes débats à la Chambre des communes qui se poursuivent. On dit que Kanawaga, depuis 35 ans, l'article cite ça ainsi, Kanawaga va prendre part aux élections fédérales. Les Indiens étant légalement mineurs ne sont pas considérés comme citoyens et partant n'ont pas le droit de vote. Mais la nouvelle loi électorale donne ce droit à tous les Indiens qui se sont enrôlés dans la Première Guerre mondiale. C'est à ce titre que plusieurs Iroquois ainsi que leurs femmes vont pouvoir voter. Et puis, on peut remarquer que les mentions dans les journaux, c'était souvent Kanawaki parce que c'était des gens très connus de la métropole de Montréal, éventuellement de Québec aussi. Fait qu'ils se servaient souvent de Kanawaki pour exposer les Autochtones en général.
C'était un peu un test, un projet pilote.
Eh oui, exactement. Et en plein ça.
Il nous reste une minute à peu près, deux minutes pour la chronique. J'imagine qu'on va revenir encore la semaine prochaine, dans deux semaines, avec le droit de vote. Mais sur cette partie-là, de cette époque-là, comment tu conclurais ces expérimentations-là?
Bien, c'est que tout, évidemment, a toujours été fait à l'insu des Autochtones, à la Chambre des communes, sans la présence d'aucun représentant autochtone. Alors donc, c'était vraiment la tutelle de l'État qui se poursuivait malgré qu'il appelait ça la franchisation ou l'émancipation. Mm-hmm. C'était toujours à titre paternaliste que c'était effectué. Fait que
c'est des votes qui sont des vrais votes, là. C'est pas des affaires que Trump dénonce, là. C'est des vrais votes, là.
Ah oui, c'est des vrais votes.
Par la poste?
Mais aussi, et en plus qu'ils pouvaient voter.
C'était des votes avec des signaux de fumée, là.
Ils pouvaient aussi aller à l'université, alors donc c'est ça. L'émancipation allait un peu plus loin que juste le vote. mais il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont profité. Puis éventuellement, il y a eu des mouvements de masse pour rétorquer ces offres gouvernementales-là, parce que c'était toujours encore dans un point de vue paternaliste que c'était effectué. Hein.
C'est très éclairant, Éric. Hein?
Oui, merci.
On se retrouve plus tard dans une autre émission. À bientôt. À bientôt.
Bonjour.
C'était Arnaque d'Élie Sapie, la gagnante du Félix de l'artiste autochtone de l'année lors du dernier gala de la disque.
Ça aussi, c'est sacrement beau.
C'est très bon.
C'est magnifique. Oui. Entre nations, parce qu'elle est Inuit, je pense.
Oui.
Bon. Est-ce qu'il y a d'animosité parfois? Est-ce qu'on l'aime moins parce qu'elle est Inuit? Elle n'est pas Inou, elle n'est pas.
Oh, ben, pas avec les Abénakis, en tout cas.
Oh, sacré.
Il n'y a pas d'animosité.
Ils sont bien tous pareils. On va parler non pas d'alimentation, mais de gastronomie autochtone.
Oui.
Et je vais commencer avec une anecdote, montrer à quel point je ne connais rien là-dedans. Je me souviens d'un très bon restaurant où j'ai déjà été il y a bien des années. À Wendake, je pense, il y avait un restaurant amérindien que j'ai trouvé.
La Sagamité.
Amérindien, j'ai dit encore. Ça va te coûter une bouteille de vin à chaque fois, moi, je le sais. Autochtone, mais c'était délicieux. Mais mon souvenir, c'était de ma grand-mère. Quand j'étais petit gars, j'avais 4-5 ans. Elle nous servait de la soupe au pois, puis elle mettait du popcorn là-dedans. Elle mélangeait ça là-dedans, puis elle disait ça, c'est un vin sauvage, c'est de la sagamité. Fait, veux-tu me corriger ça tout de suite?
Ben, je pense qu'on devrait demander à notre invité, quoi, Lisanne?
Salut!
Penses-tu que c'est une vraie recette de sagamité, ça?
Oui, oui. Ben, en fait, c'est pas du popcorn. D'après moi, ça devait être du maïs cultivé.
Ah oui, ouais. Ouais, mais elle avait décidé que c'était le popcorn, c'était ça.
Oui, ben, en fait, ben, vous savez c'est quoi le maïs cultivé, de toute façon, là, j'imagine. C'est un genre de popcorn, si vous voulez, mais c'est juste cuit, c'est cuit dans l'eau cendrée. Fait que il va popper pareil, mais ça va, la texture va être pas mal plus comme.
T'as dit quoi, toi? L'eau cendrée?
Oui, de l'eau cendrée.
Tu mets de la cendre dans de l'eau?
Oui, exact. En fait, de la cendre. Il appelle ça de l'eau cendrée. L'origine est celle-là. Sinon, c'est dans de l'eau extrêmement salée, là, dans le fond. Là.
Ah, d'accord.
Fait que, mais c'est la manière de faire. C'est ce qu'on appelle l'esquiver quelque chose. Fait que c'est pas de mettre un peu d'eau de javel.
D'accord. Je vous dérange plus avec Alexis. Je me contente juste de vous écouter pour avoir faim.
Donc, là, j'ai faim. Je vais te présenter comme il faut, Lisiane. Chef qui fait revivre des traditions culinaires autochtones, tu es la propriétaire de Kebenaki. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la démarche que tu as derrière ta cuisine?
C'est une multiple démarche. En fait, moi, mon but premier était, je dis « était » parce que ça a changé au fil du temps, ça fait quand même 10 ans que je fais ça. De prime abord, c'était justement de démontrer qu'on ne cuisinait pas de la cuisine de bois tout le temps, qu'on était rendu, à l'époque, je pourrais dire en 2010, là. On était rendu en 2010. Fait que, tu sais, c'était un peu mon idée. J'essayais d'amener ça, le fait qu'on peut avoir une fine cuisine, on peut avoir une gastronomie. Parce que là, vous venez de parler justement de la gastronomie autochtone, mais la gastronomie autochtone, c'est quelque chose de très, très, très contemporain. Ce n'est pas quelque chose qui est... c'est un peu comme la gastronomie québécoise. Mm-hmm. On peut pas vraiment dire que c'est une gastronomie qui est qui date pareil comme en France.
Il y a juste du folklore dedans, oui.
Ben c'est ça exactement. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre les aliments du terroir puis en utiliser dans le fond tous nos savoirs culinaires. Fait que c'est dans le même principe, c'est-à-dire que moi j'ai eu des cours dans ce domaine-là en cuisine d'établissement.
Mm-hmm.
Et puis c'est à la suite de ça, on n'arrêtait pas de me le demander dans le fond de faire de la cuisine à saveur autochtone. On va faire de la cuisine autochtone. Fait que, un moment donné, j'ai fini par dire bon, ok, c'est correct, je vais y aller là. Mais au départ, c'était pas vraiment ça. Puis, je me suis pris un peu au jeu où c'est que je faisais vraiment la cuisine qui, au final, ressemblait autant à la cuisine du terroir que la cuisine autochtone était très, 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 très semblable. Fait qu'il y avait peu ou pas de différence. La seule différence que je pouvais y mettre, c'est en dire l'origine. Donc, expliquer mon plat.
Okay.
C'est de cette façon-là que j'arrivais à pouvoir expliquer. Sinon, on ne fait pas la différence entre la cuisine du terroir québécois et la cuisine autochtone, du moins dans la gastronomie. Il n'y a pratiquement pas de différence, effectivement, parce que c'est les mêmes aliments.
C'est les mêmes aliments. Toi, la culture autochtone, oui. T'as pas mal baigné là-dedans toute ta vie.
Oui. En fait, c'est un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite quand je suis petite. C'est-à-dire que moi, ma mère est anthropologue et mon père est muséologue. Fait que c'est un peu difficile de passer à côté. Puis on se voulait travailler pour le musée de Benaki. J'ai fait ma première visite guidée, j'avais 5 ans. Fait que ça te donne à peu près une idée de comment est-ce que ça a été intégré très, très facilement chez moi. Non,
c'est sûr, quand on tombe dans la marmite, on est cuit, hein?
Exactement. Fait que moi, dans le fond, c'est sûr que ça a été un grand, ça a été surprenant pour ma famille de dire que ben je vais aller en cuisine. C'est comme ben voyons, elle s'en va pas dans notre direction. Mais bien au contraire, c'est que j'ai décidé d'amener ça en disant ben regarde, moi je vais transmettre ma culture, je vais le transmettre un message au niveau culturel, au niveau spirituel et tout dans mes mets. Et parce que tout le monde mange dans la vie, puis moi, je me suis dit, tant qu'à faire, aussi bien d'amener ça comme étant une expérience culinaire. Fait que Oui, ça ressemble beaucoup. Quand je fais mes chefs à domicile, c'est le cas. C'est-à-dire que je vais présenter vraiment un repas au complet, où c'est qu'il y a à peu près 4 ou 5 services. Par contre, j'explique mon plat à chaque fois. Et à la fin, les convives peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent. Mmh. Quand les questions, j'y arrive pas, je leur dis. Ça, malheureusement, c'est pas mon domaine. Mais sinon, dans la très grande majorité, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je pense qu'Alexis pourrait très bien vous dire que les questions qui reviennent sont pratiquement toujours les mêmes et que tu as l'impression de répéter la même chose
ouais.
Des années 80.
Comme Woody à la Rivière décrivait bien ça, notre vie est un atelier de sensibilisation.
Ben, c'est ça.
j'imagine que des visites à domicile, tu dois plus trop en faire avec la pandémie ces temps-ci. Ça a dû affecter pas mal ton entreprise.
Toi, je te dirais qu'à 95%, tout a été arrêté de mon côté. Moi, je suis dans l'événementiel au total. Mon commerce ouais. est vraiment très tard. Je n'ai pas pignon sur rue à proprement dit, c'est-à-dire que les gens peuvent pas, tu sais, viennent pas dans mon restaurant. Je suis vraiment juste très tard. Puis moi, ben, dans le fond, je faisais surtout de l'événementiel. Je faisais des 5 à 7 ou quoi que ce soit. Ma clientèle principale est située à Montréal.
Oh.
Fait que on s'est entendu que ouais, moi, ça a commencé, le téléphone a commencé à sonner pour annuler à partir du 8 mars dernier. J'ai trouvé ça très dur. Mais je vois la lumière au bout du tunnel tranquillement, pas vite. C'est-à-dire que là, j'ai dû un peu me rediriger concernant. Parce que je savais que j'aurais été une victime de la PCU pendant au moins 3 ans. Là.
Ouais.
Un peu comme.
Il y a une fin à la PCU, hein?
Ben, c'est parce que c'est ça. Un, ça. Puis deux, il n'y a pas juste ça. C'est que moi, c'est difficile pour moi de convertir. C'est-à-dire que comme ma clientèle principale n'est pas une clientèle locale, parce que c'est vraiment très, très pointu dans ce que je fais. Oui, je vais avoir un peu de chef à domicile ici à gauche et à droite, mais ça sera jamais...
Le marché montréalais.
Ben non, exactement. Fait que puis je pourrais pas vivre non plus en faisant juste du chef à domicile non plus. C'est pas payant. Mm-hmm. Fait que c'est sûr et certain que moi, ça l'a grandement affecté. Puis là, j'ai décidé d'enfin me rediriger vers le Moulin Michel. Puis j'ai décidé d'apporter ma touche au Moulin Michel. Fait que dans le fond, je fais des repas pour emporter.
Au
avec
moulin.
La cuisine. Oui, avec la cuisine du 19e.
Avec la farine du moulin ou...
Oui, avec la farine de sarrasin et tout ça. Puis en même temps, c'est ça, c'est que j'amène encore là. J'ai décidé de reprendre un peu le concept. Fait que dans le futur, parce qu'on a vraiment rechangé. On a changé toute la redirection du Moulin Michel. C'est rendu, dans le fond, le musée anthropologique de la vallée du Saint-Laurent. Fait que les Abénakis vont rentrer dans le moulin par la porte dans l'arrière. Ouais.
Hey, je me demandais, tu sais, on te voit à TV, on t'a vu à PTN, on t'a vu ouais. aussi à l'émission à Marina Orsini, 5 chefs dans ma cuisine. Est-ce que ça a des gros impacts sur ton chiffre d'affaires une fois que tu passes à la TV? Dans les jours qui suivent?
Non. Je dirais que les seules fois où c'est que ça a été vraiment payant pour moi, c'est quand je suis passée à l'épicerie.
OK.
Je me doutais pas qu'il y avait autant de gens qui écoutaient ça à l'épicerie. Mais sinon, les émissions de cuisine, il en pleut. Puis surtout que ce que je fais habituellement n'est pas... Là, on parlait vraiment de quelque chose de très traditionnel. Puis les gens vont focusser plus sur les ingrédients à l'émission de l'épicerie.
Okay, on parle, là, mais il reste 2 minutes. J'aimerais ça, moi, une petite recette facile, là, autochtone, là.
Ben, mon Dieu Seigneur, faites de la bannique. La bannique est quand même le pain le plus...
Le plus simple
le plus
à faire.
Connu. Et le plus simple et le plus connu, parce que la majorité des gens qui ont été au scout l'ont déjà fait au moins une fois.
Bon, ben alors, dites-nous comment faire, là, pour ceux qui n'ont pas été chez les scouts, là.
Ah, OK. Ben, en fait, ça vous prend, dans le fond, de la farine à pâtisserie. Fait que la farine à pâtisserie, ça se trouve dans tous les commerces, ou c'est que vous allez retrouver, dans le fond, votre poudre à pâte déjà intégrée dedans. Donc, ça vous en prend 2 tasses. Ensuite, vous prenez 2 cuillères à soupe de beurre ou de graisse, là, peu importe ce que vous désirez utiliser. Puis, par la suite, vous rajoutez de l'eau jusqu'à temps que vous ayez une texture qui ressemble à une pâte brisée.
Puis après ça?
Vous l'enfournez à 400 degrés pendant 20 minutes, puis c'est prêt.
Et ça fait une bonne bannique.
Ça fait une bannique au four. Sinon, vous pouvez garder votre pâte, puis dans le fond, les scouts, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont la rouler autour d'un bâton, puis qu'ils vont décider de le cuire comme ça autour du bâton.
Ça nous fait un pain autochtone, puis on peut mettre du beurre français là-dessus.
Ben, tu peux mettre du beurre français, la confiture française, dans ta qu'à la
pâte française. Ben, c'est ça se rejoint finalement.
Oui, beaucoup.
Bon, allez, là-dessus, Thio Léonie, un grand merci, Lisanne, pour ton temps d'avoir pris quelques minutes pour parler avec nous. C'était bien intéressant.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Bon appétit.
Oui, Gamit. Bye.
C'était Florent Volant avec Nenam Tuapatmanan. Excusez-moi pour mon inou.
D'une nation à l'autre. Hein? Ouais, quand même.
Je suis plus habitué à l'algonquin ou à l'abénaki.
Alexis, je voulais te poser une petite question de la fin sur la folklorisation. Mm-hmm. On voit plein d'images d'Autochtones avec des costumes très colorés, etc. On n'est pas toujours certain que c'est vraiment un héritage. Je pense aux plumes d'oiseaux qu'ils ont sur la tête et sur les costumes parfois. Je reconnais des plumes là, qui sont c'est pas des oiseaux qui viennent du Québec, ça je veux dire. Ben,
quand on pense au panache, à la coiffe qu'on voit habituellement, nous vient des plaines de l'Ouest, des Autochtones des plaines. Et c'est dû à toute la vision d'Hollywood qu'on a voulu récupérer à certains moments dans notre vie. Mais aujourd'hui, on voit justement cette volonté-là de beaucoup de membres des Premières Nations de se réapproprier leurs propres coutumes, leurs propres façons de faire, leur propre imagerie. Puis faut pas oublier non plus aussi que au travers de tout ça, c'est pas statique comme Lisanne disait, non, notre culture est pas statique, elle a évolué aussi au fil du temps, fait que juste vouloir nous représenter avec des images du passé, c'est un peu nous mettre à quelque part dans ce passé-là sans ne pas voir notre évolution.
La table qu'on a annoncée là, cette semaine, ça ressemble-tu à un calumet de paix, ça?
On va voir selon les résultats de cette table-là, on pourra s'en reparler peut-être dans 6 mois ou 1 an.
Peut-être même dans une semaine quand on se retrouvera dans cette émission. Ben, cette émission s'achève. Alexis, on en a le droit. Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Mais avant la semaine prochaine, Alexis, il faudrait pas manquer notre fameux film, le film de Kim Obunsawin
qu'on a parlé la semaine dernière.
Fabuleusement beau, intéressant. Ça va passer lundi soir, RTV à 20h. Lundi
pas manqué.
Soir, RTV 20h. Surtout pas manquer ça, le film de Kim Obunsawin.
Ça vaut la peine.
Ben, je vous rappelle que l'émission se termine, que c'est Maurice Bolduc qui est à la régie, que Claire Guérin est à la recherche, que Louis Garon est à la coordination.
Avec Alexis Wawanaloat et Robert Blondin au micro.
À la semaine prochaine, mon grand.
À la semaine prochaine.